Bonjour à toutes et à tous. Que nous puissions prendre un peu de ce temps pour nous retrouver devant la présence de notre Dieu autour de sa parole. J'espère bien que vous avez pu passer des bons moments jusqu'à présent et que, espérons que vous êtes en bonne santé par la grâce de notre Seigneur. Je vous ai envoyé donc le psaume 46, c'est aussi un psaume des fils de Corée. Rappelez-vous, mercredi dernier, nous nous sommes entretenus avec le psaume 42, des fils de Corée, dans laquelle nous nous trouvons un psalmiste qui montre l'intérieur, le combat intérieur dans lequel il se trouve, des tensions entre ce qu'il ressent et ce qu'il veut communiquer et prêcher, parler à son âme. Aujourd'hui, ce psaume aussi des fils de Corée va nous montrer qu'en face des bouleversements, et nous pouvons faire allusion aux circonstances que nous traversons dans le monde avec le Covid-19, en face des bouleversements, nous pouvons trouver un refuge sur une sécurité, un lieu sûr dans ces moments difficiles. D'abord, ce psaume 46, il est difficile d'établir, si vous voulez, les contextes qui font les contours donc, des circonstances du psalmiste. Il y a beaucoup d'hypothèses, selon les commentateurs que j'ai pu lire. Il se peut, bon, rien n'est sûr, parce que le psaume, comme vous l'avez lu, ne décrit aucun détail précis. Mais il se peut que ce psaume fait allusion à la délivrance miraculeuse de Jérusalem lorsque la ville fut assiégée par le monarque assyrien Sanchérib lors du règne d'Ézéchias, à peu près de 716 à 687 avant Jésus-Christ. Si vous voulez vous renseigner à ce sujet, vous pouvez lire dans le livre de Deux Rois, à partir du chapitre 18, jusqu'à Deux Rois, chapitre 19, verset 35. Racontant cette circonstance que je viens de vous dire. Isaïe fait le parallèle aussi, vous pouvez lire la même chose en Isaïe 36, verset 1 à 22, jusqu'à Isaïe 37, verset 1 à 36. Donc ça c'est les hypothèses de circonstances qui peuvent faire allusion en lien avec ce psaume. Mais rien n'est sûr. Mais ce qui est encourageant dans ces circonstances, c'est que les habitants de Juda étaient conscients que Dieu était avec eux. Quand vous lisez, les chapitres que je vous ai donnés, car Dieu leur avait accordé une délivrance miraculeuse. Et par la suite est né donc ce psaume qui célèbre les louanges de Dieu, qui était avec son peuple. Comme je vous ai dit, ce n'est qu'une hypothèse, les circonstances de cette délivrance vue de l'attaque de Sanchérib, le roi assyrien. Même si nous n'avons pas de certitude sur les circonstances exactes, nous pouvons, à travers le psaume, relever des indices qui indiquent que le danger semble venir de l'extérieur. Voilà le mot que vous avez à compléter sur le document, que le danger semble venir de l'extérieur. En effet, dans ce chant, le psalmiste met l'accent sur un bouleversement qui vient de l'extérieur, ou si vous voulez, un changement à l'extérieur. Comment peut-on dire ça? On peut dire parce que nous voyons des indices où le psalmiste va décrire la force ennemie en utilisant différentes figures de style ou des métaphores ou des images. Vous avez votre Bible devant vous, du verset 3 à 4, il va utiliser une métaphore, ça c'est ce que vous avez à compléter, de péril ou de catastrophe surnaturelle. Il dit, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Ça, c'est la première manière comment il décrit la force ennemie, hein, par rapport à ces circonstances. Deuxième chose, verset 7, on voit l'image de l'effondrement des nations ennemies. Au verset 7, nous lisons, « Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. » Donc, de l'effondrement des nations ennemies. Et il utilise une troisième image au verset 10, l'image de destruction des armes ennemies. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Donc voilà les indices, hein, qui peut décrire et nous donner l'assurance que c'est un changement lié à l'environnement extérieur du psalmiste, qui est décrit sous forme de métaphores et d'images. Pour mieux cerner ce psaume, il peut se diviser en trois strophes. Hein, le premier strophe, c'est du 2, verset 2 à 4, hein, où on voit Dieu montrer son pouvoir sur la nature. D'abord, j'ai écrit sur votre feuille que le psaume décrit la maîtrise de Dieu ou le contrôle souverain de Dieu dans trois sphères. Et voilà les trois sphères, donc au verset 2 et 4. D'abord, il montre sa maîtrise, son contrôle, son pouvoir sur la nature. Verset 2 à 4. Au verset 5 à 8, il va montrer son pouvoir sur les assaillants de sa cité. Il parle ici de Sion, donc de sa cité Sion. Et le troisième strophe, au verset 9 à 12, hein, son pouvoir pour établir la paix, voilà ce qui a complété, sur le monde entier qui se livre à la guerre. Je suis forcé de dire que ce psaume ne se contente pas de décrire des événements de l'époque du psalmiste, hein, mais il a aussi une vision plus lointaine, et je dirais donc un psaume, hein, messianique qui va parler du futur, de l'avenir, hein, un peu plus loin. C'est pas notre propos, mais juste une remarque. Maintenant, nous voyons les bases solides pour la confiance en Dieu, et c'est ce qui va nous donner de l'assurance face à notre situation actuelle. Je permets de faire cette remarque que jusqu'à récemment, l'homme a peu réfléchi à la possibilité d'une catastrophe mondiale, comme nous vivons aujourd'hui avec le Covid-19. Et comme vous le savez bien, cela entraîne non seulement la perte humaine colossale, mais aussi les désastres financiers et autres que nous ne pouvons pas énumérer, tellement elles sont nombreuses. Mais ce psaume peut aborder le sujet sans crainte, car ses premiers versets même sont à prendre au sérieux. Je pourrais dire dans la tourmente, qu'il s'agisse de catastrophes naturelles, de guerres, des attentats, d'épidémies, que sais-je. Une chose doit être présente à notre esprit. Selon le verset 2, on peut dire que Dieu est présent. Dieu est présent. Il dit, Dieu est pour nous un refuge. Dieu. C'est l'hébreu Elohim. Je dirais, c'est le nom ordinaire qu'utilisent même les incroyants pour appeler Dieu. Mais il a une signification plus profonde parce que le nom Elohim, un nom de Dieu, met l'accent sur le fait qu'il est le Dieu créateur. Voilà le mot à compléter. Le soutien, le pourvoyeur de toute vie sur cette planète. Et je vous invite, hein, à voir la déclaration de Psaume 104 à ce sujet. Hein, sur le fait que notre Dieu est créateur, et non seulement il a créé, mais il prend soin de ses créatures, il est présent. Il est dit, Dieu est pour nous. Je souligne pour nous. L'idée ici, c'est qu'il se place de notre côté, et non contre nous. C'est rassurant, n'est-ce pas, dans des situations difficiles. Une chose que je peux noter ici, c'est que notre véritable sécurité est en Dieu et non en quoi que ce soit ajouté à Dieu. Comme dit le psalmiste, Dieu est pour nous un refuge. Notre véritable sécurité est en Dieu seul et non en quoi que ce soit ajouté à Dieu ou en dehors de Dieu. Deuxième chose qui a été marquée à travers ce psaume, le verset 2, que Dieu est un refuge. Et cette image, cette métaphore est utilisée maintes et maintes fois dans la parole de Dieu. Je vous ai donné quelques références que on ne prendra pas le temps ce soir de les lire. Je vous laisse lire chez vous. Un refuge, dans d'autres traductions, un abri, c'est-à-dire un lieu de sécurité ou de protection au milieu des problèmes, des conflits dans ce monde déchu. Quelque chose qui est à retenir ici, que cette paix résulte d'un acte de foi. Je vous ai envoyé ce matin, deux questions pour mener réflexion sur vous-même quant à votre confiance en Dieu dans l'adversité. J'ai mis ici, c'est un acte de foi, parce que l'acte de foi dont il s'agit, c'est de placer notre confiance en Dieu dans des circonstances difficiles. Peu importe ce que vous pouvez traverser maintenant, ce que chacun de nous pouvons traverser, quelle est la place de la confiance en Dieu dans des milieux d'adversité? De 0 à 10, où vous vous situez? Oui, cette paix résulte d'un acte de foi. Je m'explique, nous pouvons expérimenter cette paix, non pas à cause de notre foi. Parce que j'ai dit c'est un acte de foi, non pas à cause de notre foi, petite ou grande soit-elle. Mais à celui qui est l'objet, voilà le mot qui manque, l'objet de notre foi. À savoir Dieu en qui est placée notre confiance totale pour être le refuge de notre vie en dépit de nos circonstances qui peuvent être parfois désastreuses, décourageantes, déstabilisantes. Et cette paix, permettez-moi d'illustrer à la manière d'un aigle, hein, comment nous pouvons vivre de manière pratique cette paix. Vous le savez qu'un aigle sait longtemps en avance, avant qu'elle n'éclate, qu'il y a une tempête qui approche. Et quand cela, il le sait, qu'est-ce que fait l'aigle? L'aigle s'envole à un certain niveau d'altitude, où il attend que les vents viennent. Et quand la tempête frappe, il déploie ses ailes de telle manière que les vents le saisissent et l'élèvent au-dessus de la perturbation atmosphérique. Retenez bien l'image que je veux à souligner ici. L'aigle n'échappe pas à la tempête. Il est dans la tempête. Mais il utilise les vents qui amènent la tempête pour s'élever plus haut. Je vais répéter. L'aigle n'échappe pas à la tempête. Mais il utilise les vents qui amènent la tempête pour s'élever plus haut. C'est ça la leçon que nous pouvons tirer dans l'adversité à l'illustration de cet aigle. C'est que Dieu nous rend capables de nous élever au-dessus des vents, des tempêtes qui apportent soit la maladie, la déception, la tragédie, le découragement, les pertes dans nos vies. En dirigeant nos pensées et en plaçant notre confiance en Dieu seul. Et ainsi, nous pouvons vivre et avoir la victoire, même sans avoir terminé le combat, parce que nous sommes plus que victorieux quand nous plaçons notre confiance en celui qui nous a tout gagné, le combat, que nous restons à vivre ici, pendant notre pèlerinage ici-bas. Troisième point dans notre passage, Dieu est un appui. Et intéressant, dans le mot hébreu, appui est traduit en beaucoup de passages par ma force, ou aussi dans la force. Je vous invite à regarder ces passages, dont quelques-uns, j'ai énuméré ici. Cela nous donne l'application de ce terme, selon ces passages, que Dieu donne la force aux faibles, à ceux qui sont dans la détresse, en vue de l'action. À l'image de cet aigle, retenez l'image. Et le psalmiste va donner un peu plus d'explications en quoi Dieu est un appui. Juste le verset 2, vous lisez, « Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » La version Darby traduit cette expression, « Il est un secours dans les détresses, toujours facile à trouver. » Et Nouvelle Bible Seconde, « Un secours bien présent dans la détresse. » Je voudrais attirer votre attention sur l'expression, le terme « bien présent » dans la détresse. « Bien présent ». Il souligne l'empressement de Dieu à se laisser trouver. Et ce même mot traduit par « bien présent », il est utilisé en Ésaïe 55, verset 6, que nous connaissons bien. « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. » Pendant qu'il se trouve. C'est bien le « bien présent ». Donc, bien présent souligne l'empressement de Dieu à se laisser trouver et aussi le fait qu'il est à la hauteur de n'importe quelle situation. C'est pour cela qu'il est un appui. Il ne fait jamais défaut. On peut trouver support stable, immuable dans son caractère et c'est pour cela qu'il peut être un appui pour nous. Et il n'est pas loin où on doit crier, mais il est un appui à côté de nous, qui se laisse trouver. Et il est à la hauteur pour venir en aide devant notre situation. Quatrième point que je vois dans ce verset 3 à 4 du psaume 46, Dieu est au contrôle de toutes choses. Si vous avez votre psaume ouvert devant vous, j'aimerais que vous souligniez les contrastes dans l'image qu'utilise le psalmiste. Dieu est celui qui a mis l'ordre pour la création. Il parle des montagnes, il parle des mers, il parle de la terre. Et c'est l'ordre de la création que nous trouvons exactement qui est décrit ici dans le psaume 104, versets 5 à 9. Nous n'allons pas lire. Mais c'est Dieu qui a mis l'ordre pour la création. C'est lui aussi qui mettra fin à cet ordre. Je vous invite à lire le psaume 102, versets 26 à 28. Ça pour dire qu'il est au contrôle de toutes choses. Lui qui a mis en place, lors de la création, l'ordre, le principe, la loi qui doit régir toutes ces choses. Et c'est lui qui mettra fin aussi à cet ordre. Je voudrais juste tirer quelques applications. En commençant par le verset 3 et 4. On constate que ce qui semble en apparence immuable, il y a beaucoup de contrastes que le psalmiste utilise, ce qui semble en apparence immuable, voilà le mot qui manque ici, comme la terre, vous voyez au verset 3, et aussi imprenable comme les montagnes, sont en fait instables. Et le psalmiste fait bien attention pour nous le souligner en utilisant les verbes ici qui met bien un contraste entre la terre, les montagnes qui sont en apparence instables, en fin de compte, ils ne le sont pas. Pourquoi ? Parce qu'il dit « bouleverser »,« trembler » dans d'autres traductions, « chanceler » ou « vaciller » dans d'autres traductions. Ça me fait penser à la parole de Jésus qui disait « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Donc ce qui est en apparence solide, immuable devant nos yeux, ne le sont pas. C'est pour nous attirer le regard et la réflexion, tout simplement, que rien n'est sûr dans ce monde, je dirais, pas même votre compte en banque, pas même vos assurances multirisques. Ils ne vont ni vous protéger vous-même, ni vos biens matériels, car ce que ce monde est instable. Regardez autour de vous aujourd'hui. Prenez-en conscience. Et cela ne suffit pas de prendre conscience, mais d'agir. Selon le verset 2, le psalmiste nous enseigne que face à l'instabilité de ce monde, comme on vient de décrire tout à l'heure l'instabilité de montagnes, de la terre, des mers qui mugissent et tout ça, le mouvement perpétuel, vous pouvez trouver votre sécurité uniquement en Dieu seul, car il demeure stable. Ça, c'est le mot qui est là. Immuable devant tout ce qui est instable. Et ce qui doit nous rassurer, c'est que la fin de toute chose est dans ses mains. Alors, selon le verset 11, il nous invite à reconnaître sa suprématie, sa domination et son règne sur tout l'univers et au-dessus des règnes des hommes. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Ça, c'est notre Dieu. En face de telles réalités, faites-vous confiance totale en lui, comme il est, se révèle tel qu'il est dans la parole. Ou vous n'êtes pas tout à fait confiant pour diverses raisons que vous pouvez avoir, mais sachez qu'il est présent. Il est un appui. Il est à la hauteur. Il est un refuge. Il contrôle tout. Même si nous voyons beaucoup d'instabilité, beaucoup de choses qui nous découragent, beaucoup de choses qui nous amènent la crainte, de par l'avenir incertain, sachez que l'histoire est dans ses mains. La fin de toute chose est dans ses mains. Il est au contrôle de toute chose. Et plaçons notre confiance en lui seul, pas en quoi que ce soit d'autre. C'est l'encouragement que j'ai pu avoir et que j'ai pu tirer de la lecture de ce psaume des fils de Corée. Combien nous avons besoin de méditer, combien nous avons besoin de parler à nos esprits. Parce que tout nous amène à vaciller, à nous déstabiliser, à faire que c'est l'émotion, comme nous avons parlé du psaume 42, qui risque de prendre le dessus. Mais au lieu de nous écouter, parlons-nous à notre âme, corrigeons nos pensées, méditons sur ce qui est la personne de Dieu. C'est lui seul qui est l'appui sûr et c'est là que nous trouvons sécurité totale. Paix parfaite, en traversant l'adversité comme cet aigle, au milieu des tas de tempêtes, s'élève au-dessus de ces circonstances et trouve la paix, si je peux dire ainsi. Gloire soit à Dieu, et que Dieu puisse faire en sorte que sa parole touche nos cœurs, change nos pensées et nous encourage dans ces moments difficiles que nous traversons dans le monde. N'oublions jamais de prier les uns pour les autres, avec les requêtes qui nous sont partagées sur WhatsApp, et de penser les uns aux autres dans nos prières pour divers besoins. Je vous dis à bientôt, et prenez courage, tenez bon dans le Seigneur. Amen.